La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Au menu de notre club cet après-midi, deux nouveaux candidats en route pour la finale de ma thèse en 180 secondes, un festival des déchets qui va vous faire rêver à Brest et un guide ornithologique pour observer les oiseaux dans notre pays. Je vous présente bien sûr mes invités impatients dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
La disparition de Néandertal il y a 40 000 ans est à la une de la science aujourd'hui.
Oui, avec une nouvelle hypothèse explorée par des chercheurs français. Et si c'était un problème de fertilité qui a conduit notre frère à l'extinction, on en discute dans un instant.
Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette émission qui était préparée aujourd'hui par Irène Menahem, Lucie Sarfati et Sophie Vaux.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Villard. Sur France Inter.
Et saluons les invités de ce club, Farah Boueda, Christophe O'Haraud, David Val et Nidal Issa. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue, je vous sens en pleine forme. Farah Boueda, vous qui êtes doctorante à l'Université de Strasbourg, au laboratoire architecture et réactivité de l'ARN. Alors, ça n'est pas l'architecture où, au sens où on l'entend habituellement.
Hein.
Qu'est-ce que vous bricolez, vous, dans votre laboratoire?
Eh ben nous, on est une unité qui se concentre exclusivement sur la molécule d'ARN, qui est une molécule extrêmement importante dans tout le règne vivant.
Mmh. Et donc, c'est la copine de l'ADN, hein.
C'est un peu ça, c'est un peu la traductrice de l'ADN, pour être précis.
Et quel est, Farah, l'intitulé exact de votre thèse, celle que vous allez défendre à Grenoble le 13 juin prochain, s'il vous plaît?
Alors, développement de nouveaux aptamères d'ARN fluorogène pour la conception d'outils d'imagerie.
Alors, on aime beaucoup, on n'a pas tout compris, mais on va y revenir dans un instant avec vous. Christophe O'Haraud, vous êtes doctorant au CNAM, au laboratoire de mécanique des structures et des systèmes couplés. Vous pouvez nous éclairer sur votre activité?
On s'intéresse essentiellement aux vibrations des structures couplées avec plusieurs milieux. Ça peut être un liquide, ça peut être des patchs piézoélectriques. Donc l'idée, c'est de réduire les vibrations un petit peu. Il y a aussi de l'acoustique.
Ouais, les patchs quoi, pardon, j'ai pas compris.
Piézoélectriques.
Oui, qu'est-ce que c'est?
Ça transforme l'énergie mécanique par la déformation en énergie électrique.
Et quel est le titre de votre thèse? Rappé ou pas d'ailleurs, hein, comme vous voulez Christophe. Hein.
Exactement. Ouais. Non, on va pas le faire en rap. Donc c'est réduction des vibrations de structures couplées à des liquides internes avec surface libre par l'utilisation de systèmes hybrides passifs-actifs.
Voilà, c'est tellement compliqué que vous avez été obligé de l'écrire vous-même avant de nous la donner à l'antenne. David Val, vous êtes auteur, essayiste, interprète et auteur associé à Océanopolis, commissaire du Festival des déchets qui aura lieu à Brest du 3 au 8 juin. Un festival des déchets, ça fait rêver pour emmener toute sa famille se distraire.
Oui, on va voir qu'on peut rêver avec des poubelles et surtout agir. Agir pour qu'il y en ait moins et qu'elles soient bien différentes. Oui, c'est un festival hors norme et inédit dans sa conception, durant laquelle, pendant la semaine prochaine, du 3 au 8 juin, on assistera à des spectacles, des conférences, des expositions, des forums, des ateliers, des campagnes de ramassage de plastique sur les plages et de mégots dans les villes.
Voilà, on va en parler dans un instant et on sera en ligne également avec Roselyne Philippe qui est en charge de la gestion durable des déchets justement pour la métropole de Brest. Et puis enfin Nidal Issa, soyez le bienvenu, vous qui êtes ornithologue et co-auteur de cet ouvrage « Observer les oiseaux en France » aux éditions Biotope, avec l'idée de ce guide qui est finalement de nous montrer toute la diversité française au travers des pioupiou.
Oui, voilà, tout à fait. Donc la France, elle est réputée partout dans le monde pour son tourisme, et notamment par rapport à son patrimoine historique, culturel, les loisirs, la gastronomie. Et on a un pays extrêmement riche en termes de diversité d'espèces. Hein. C'est l'un des pays les plus riches en Europe en termes du nombre d'espèces d'oiseaux. Et donc l'idée, c'était aussi de faire connaître et de promouvoir la France à travers les oiseaux.
Et se balader avec un guide à la main, justement, pour faire aussi de la science participative.
Tout à fait.
On va en parler dans un instant ensemble. Et puis vous allez répondre, bien sûr, aux questions, aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ».
Mais alors, oh ma pauvre Fanny, impossible de faire un enfant. Je ne te dirai pas tous les docteurs qu'on a vus, toutes les sources minérales, tous les cierges, tous les pèlerinages, toutes les gymnastiques suédoises. Et je gaze naturellement, je gaze. Mais voilà la vérité. Pendant longtemps, nous avions eu peur d'avoir un petit. Et puis quand nous l'avons voulu, nous ne l'avons pas eu. Nous avions dégoûté le bon Dieu.
Voilà, vous allez comprendre le rapport entre Fanny de Pagnol en 1932 et Néandertal il y a 40 000 ans. C'est aujourd'hui bien les problèmes de fertilité dont on parle, Axel, à la nuit de la science.
Oui, Mathieu, c'est une drôle d'hypothèse qu'on va explorer aujourd'hui. Pendant des centaines de milliers d'années, les Néandertaliens ont prospéré en Europe sans encombre, mais il y a 40 000 ans, patatras, ils disparaissent brutalement du paysage. La raison de cette extinction, au moment même où Homo sapiens arrive sur leur territoire, est un des grands mystères de la paléoanthropologie aujourd'hui. Une nouvelle hypothèse fait son apparition, peut-être un problème de fécondité des femmes néandertaliennes. Et nous en discutons aujourd'hui avec celle qui a formulé et exploré cette piste, Sylvana Condemi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche pour le CNRS à l'Université Aix-Marseille dans l'équipe Anthropologie, Droit, Éthique et Santé. Alors comment en êtes-vous venu à explorer cette piste de la fécondité des néandertaliennes, puisque c'est de ça dont on parle? Est-ce que les autres hypothèses formulées depuis des années n'étaient pas satisfaisantes pour vous?
C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hypothèses. Elles sont toutes peut-être plausibles. Il y en a quelques-unes, je ne cache pas, qui sont un peu farfelues. Mais on a essayé de se concentrer sur quelque chose d'assez particulier. C'est vrai que Néandertal disparaît au moment où sur ce territoire, il y a un autre compétiteur qui est Sapiens. C'est vrai qu'il y a eu des changements climatiques, il y a eu des événements atmosphériques assez importants, des volcans qui ont pu changer le climat ou localement créer des pénuries de ressources. Il y a toutes ces hypothèses sont plausibles. Il y a pu y avoir également de la violence entre les nouveaux arrivants et les Néandertaliens.
Ils avaient la totale quand même.
Oui,
hein,
oui voilà.
C'était chargé.
C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que toutes ces hypothèses sont absolument pas possibles. Oui. Ce qu'on a voulu faire, c'est que vu qu'elles ne sont pas faciles à prouver, ces hypothèses, parce qu'on n'a pas de traces de génocide, on n'a pas de traces de choses comme ça, on a essayé de se poser une autre question. Est-ce qu'à l'intérieur des Néandertaliens, on pourrait trouver une cause interne qui ferait que cette population puisse disparaître en un temps que l'on connaît par l'archéologie? C'était notre question, et donc une cause démographique.
Alors comment est-ce qu'on étudie la fécondité d'une espèce qui est éteinte depuis 40 000 ans quand on a seulement des fossiles et un peu d'ADN?
Vous abordez là une très très grande question. On l'aborde avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire avec, nous on a utilisé comme méthode la modélisation mathématique et démographique écologique. C'est-à-dire, puisque nous n'avons pas, pour les Néandertaliens, qui est une population qui a disparu, des taux de fertilité, des taux de mortalité, des taux de migration, c'est-à-dire toutes ces choses qui sont importantes quand on étudie une population, on a créé un modèle avec des paramètres et ce modèle nous permet donc de tester toutes les différentes causes démographiques qui auraient porté à la disparition.
Quand vous dites des paramètres, qu'est-ce qu'on fait manger à ce modèle? Qu'est-ce qu'on lui donne en entrée pour qu'il sorte des résultats?
Alors, la première chose qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on est allé on est parti du principe que les Néandertaliens, comme tout le monde sait, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Donc, on est allé voir dans les populations actuelles ou subactuelles de chasseurs-cueilleurs quels sont ces paramètres. Parce que ce n'est pas les mêmes que pour nos sociétés à nous, évidemment, qui sommes depuis très longtemps bien installés dans le néolithique et dans d'autres choses comme ça. Donc on a essayé de comprendre quelle est la fécondité d'une population, quelle est la mortalité d'une population de chasseurs-cueilleurs. Et on est parti d'une première hypothèse. On s'est dit, pour voir quels sont les paramètres qui sont les plus importants, on va partir d'une hypothèse que nous savons fausse, c'est-à-dire que la population néandertalienne, on va faire un modèle dans lequel la population néandertalienne est stable, elle ne bouge pas. C'est-à-dire, on essaie de voir avec une modélisation comment elle pourrait rester stable. Quel est le taux de fertilité? Quel est le taux de migration? Quel est le taux de mortalité? Pour, naturellement, les différentes classes d'âge de la population. Et une fois qu'on a eu ce modèle qui nous donnait la population stable, donc on a eu des taux de fertilité, de taux de migration, de taux de mortalité pour les différentes classes d'âge, eh bien, on les a fait varier. On a fait plein de simulations, plus de 10 000, pour essayer de voir quels sont les paramètres qui sont les plus importants pour faire disparaître la population néandertalienne sur des temps plus ou moins longs. Alors, on a pris le temps le plus long possible, 10 000 ans, qui est peut-être excessif, mais certains chercheurs pensent qu'elle a disparu en 10 000 ans, et on a pris un temps beaucoup plus court, 6 000 ans ou 4 000 ans.
Alors si on se place un peu au milieu de ces populations néandertaliennes, comment déjà peut apparaître un problème de fécondité et quelles sont les conséquences qu'on peut imaginer?
Alors, comment peut apparaître un problème de fertilité, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. On peut répondre par rapport à ce que nous savons aujourd'hui. Nous savons que la fertilité dépend de beaucoup de paramètres, mais il y a un paramètre qui est important, c'est les ressources, c'est la nourriture, c'est la quantité de graisse qui sont disponibles pour les femmes. Et on sait aussi que la fertilité n'est pas la même pour les femmes jeunes, celles qui ont moins de 20 ans et celles qui ont plus de 20 ans. Il y a vraiment une, disons, une difficulté pour les femmes très très jeunes qui sont en faibles ressources, qui ont donc très peu de graisse dans leur corps pour avoir des enfants. Il y a beaucoup plus de fausses couches et moins de fertilité. Donc on est parti de paramètres biologiques actuels parce que les Néandertaliens, après tout, sont des humains.
Alors si on utilise cette hypothèse pour y voir plus clair dans le grand tableau, on doit rajouter tout ce que vous avez dit au début. On doit rajouter l'arrivée d'Homo sapiens, on doit rajouter les conditions climatiques. Si on devait raconter un petit peu cette extinction, une histoire qui est hypothétique de Néandertal, comment on raconte la grande histoire ?
Ben, moi, je la raconterais, comme je l'ai raconté avec, dans le livre Néandertal, mon frère, c'est que, qu'on a écrit avec Françoise Avadier, un journaliste scientifique, c'est que les causes sont sans doute polyfactorielles. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule cause. C'est-à-dire, il y a plusieurs causes qui interviennent au même moment. Et si je veux parler de la fertilité en particulier, on peut se poser la question, une fois qu'on a vu comment ça aurait pu se passer, c'est pourquoi ça s'est passé. Donc si on prend comme hypothèse qu'il y a moins de ressources, alors on peut se poser la question, pourquoi il y a moins de ressources ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un compétiteur néandertal ?
Est-ce Homo sapiens.
Pardon, vous voyez, je deviens une néandertalienne là dans le cas. Parce qu'il y a Homo sapiens, ou est-ce que parce qu'il y a eu des changements climatiques, voire des volcans, on sait qu'il y a eu des grandes explosions volcaniques en Europe à l'époque où il y a ces deux populations, qui auraient pu faire des retombées de cendres volcaniques et qui auraient... il y aurait une moindre couverture végétale, donc une carence de ressources. Est-ce que c'est parce que les sapiens ont exterminé une partie des néandertaliens et les néandertaliens, alors là, ce sont des hypothèses, étaient les grands chasseurs qui, tout seuls, sans les femmes, partaient à la chasse. Et donc, vu que les hommes disparaissent ou une partie des hommes disparaissent dans certaines communautés, il y a moins de ressources disponibles. Vous voyez, tout est possible.
On sait que sapiens et néandertal se sont hybridés. Est-ce que, pourquoi pas, un apport de gènes de sapiens aurait pu génétiquement faire baisser la fertilité des néandertaliens ?
Alors, on sait qu'il y a eu des hybridations. On sait aussi qu'il y a eu des chercheurs qui ont émis des hypothèses sur la base génétique, qu'il y a... dans le chromosome Y du néandertalien, il y aurait des problèmes de histo-incompatibilité que quand ils se présentent dans les populations actuelles, portent à la stérilité ou plutôt à des fausses couches, surtout si le fœtus est mâle. Mais vous voyez, toutes ces choses-là peuvent former un ensemble qui donne un tableau plus complet de la disparition des néandertaliens.
Bon, ben voilà, donc une nouvelle hypothèse autour de la baisse de fertilité de Madame de Néandertal. Merci beaucoup Sylvana Condémy.
Je vous en prie. Merci
et effectivement,
beaucoup.
Vous êtes l'auteur de ce livre Néandertal, mon frère, qui est publié aux éditions Flammarion. Merci Axel, bon
Merci
week-end,
Mathieu.
À lundi. Et c'est le club dans un instant.
Faire que tu me blesses. T'es déjà loin du rivage, en sevrage sur la plage. Chez toi, j'emmène pas large. Chez toi, sixième étage, prise d'envie sauvage, clair-obscur caravage. Dans mes yeux, c'est l'automatique arrosage. Avec la face de Reagan. Et si tu veux, je te dépanne. Moi, je connais toutes tes failles. Soirée paille, on pagaille. C'est pas gay, tu te fais mal. Moi, con, que t'as pas d'âme. Mais moi, je veux être ta femme. Tout mon corps te réclame. Dans mon cœur, c'est l'automatique arrosage. Et si tu veux, on parle de nous. Sauf si tu décides qu'on s'en fout. We'll be right back. besoin de pistache. C'est que c'est toi qui me ravages. Pas moyen que je te partage. Dans ton pieu seul, l'automatique arrosage. Oui, moi j'aimerais qu'on parle de nous. Oui, moi j'aimerais qu'on parle de nous.
QCC, c'était Marie-Flore sur France Inter. Au menu de notre club cet après-midi, les deux nouveaux doctorants qui se préparent donc à affronter le public pour la finale de ma thèse en 180 secondes, un festival des déchets qui aura lieu à Brest et un guide ornithologique pour observer les oiseaux. Et bien sûr, vous nous rejoignez avec vos messages en direct sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
C'est parti.
La tête au carré, ma thèse en 180 secondes sur France Inter.
À toi. Voilà, on va accueillir nos deux nouveaux doctorants qui sont dissipés d'ailleurs, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ils sont heureux de faire de la radio pour la première fois. C'est la première fois que vous êtes derrière un micro. Donc c'est formidable. On est ravis de vous accueillir. Plus que 14 jours avant la finale, donc, de MT 180. Ce sera le jeudi 13 juin prochain à la Maison de la Culture de Grenoble. Avec bien sûr le CNRS et la CPU qui sont les organisateurs du concours. Et donc Farah Boueda et Christophe Oharo. Vous êtes sur les starting blocks. Donc, quel état d'esprit vous êtes donc tous les deux avant le grand saut là face au public et au jury?
Ça va encore. Je pense que 14 jours, ça va. Quand on va se rapprocher dans les trois derniers, ça va commencer à stresser beaucoup. Mais ça va. Prêt. Donc,
vous avez l'air d'aller bien, hein, Christophe. Même chose, non?
J'ai rendu ma thèse lundi.
Ah oui, c'est vrai, donc grand soulagement quand même.
Oui.
Le pire est fait.
Tout à fait.
Ouais, donc ça a été vraiment il fallait arriver à cette échéance.
Voilà, ouais.
Pour avoir l'esprit totalement libéré.
Ah bah non, c'est exactement ce qu'il faut là.
Ouais. Bon, bah c'est super. Donc ça va être vraiment beaucoup de plaisir, j'imagine, pour vous. Est-ce que vous aviez eu déjà l'occasion de parler face à un public dans un théâtre, parce que vous donnez des cours, vous, Farah, c'est
ça? Alors ouais, je suis monitrice de l'Université de Strasbourg, c'est-à-dire que j'enseigne en travaux pratiques avec des étudiants de troisième année de licence.
On dit monitrice, hein.
On dit... Ouais.
Comme avec les petits.
C'est ça, ouais. Moniteur de l'université de Strasbourg. Ouais. Donc oui, j'ai l'habitude de vulgariser un petit peu mes propos, mais ça reste des étudiants en biologie. Ouais. Donc vulgariser pour que ce soit accessible à tout le monde, c'est encore l'étape d'après. Ouais. Et c'est pas aussi simple qu'on le pense.
Ouais. Même pour vous qui maîtrisez bien donc, la matière, hein, c'est compliqué de parler à des étudiants aussi en
laissant
de...
Ouais, c'est compliqué parce que dès qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, il faut trouver un autre chemin pour leur faire comprendre et c'est toujours compliqué de trouver le bon chemin pour faire comprendre nos propos.
Ouais. Même chose, Christophe?
Exactement la même. Donc moi, je donne des cours à des étudiants en alternance, en master 1. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de faire mon rap devant eux.
Ah oui?
Ouais.
Et alors, ils ont aimé ou pas?
Eh ben, j'ai jamais eu autant de questions sur mon sujet de thèse.
Parce que c'est gonflé quand même, que le prof rappe devant ses élèves, non?
Alors, je leur avais promis, si on finissait le TD, attends.
Ah oui, donc c'était juste un pari, quoi.
Exactement.
Ouais. Et donc, ça a vraiment déclenché quelque chose de différent?
Concrètement, ça m'a permis un petit peu de parler de ce que je fais de manière un peu plus décontractée, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu beaucoup de questions sur les vibrations et les sciences de l'ingénieur en général.
Ah, c'est une bonne idée, ça, finalement. Hein. David Val, c'est pas mal, non, de rapper pour ses élèves?
Ah bah j'écoute, je vais peut-être m'en inspirer.
Vous qui êtes
création.
Un homme de scène, voilà, exactement. Alors, Farah, on aimerait bien en savoir plus sur votre thèse, évidemment, puisque vous êtes là pour en parler. Vous êtes actuellement en troisième année, hein,
c'est ça.
Ça, hein,
c'est ça.
Et vous allez demander une quatrième année après?
Oui, j'essaye de rallonger un petit peu.
On va beaucoup entendre parler d'ARN avec vous.
Oui.
L'acide
ribonucléique.
Et non pas l'acide désoxyribonucléique, qui est l'ADN, évidemment. C'est quoi la différence entre les deux? Alors
l'ARN est sous forme, ce qu'on dit, simple brin, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul brin. L'ADN a deux brins.
Ouais.
Et il y a un OH en moins, d'où ribos, et non pas désoxyribos. Et donc, c'est une molécule qui est fondamentale dans le règne vivant, n'importe quelle espèce. C'est une molécule extrêmement importante. Et elle sert...
Pourquoi ?
Eh bien, parce que justement, elle sert de, entre guillemets, de traducteur. L'ADN a de l'information qu'il faut savoir décoder. La première étape est de la décoder via de l'ARN. Et... là, ça se divise en deux. Il y a de l'ARN qui va rester toujours sur forme d'ARN et qui va servir de régulateur dans plein de mécanismes importants. Mmh. Et il y en a certains autres qu'on appelle des ARN messagers qui vont, eux, être traduits en protéines. Et donc, ça permet de traduire l'information de l'ADN jusqu'aux protéines dans les cellules.
Alors, on va entendre Farah Boueda, un extrait de votre prestation. C'était à l'occasion de la demi-finale. C'était à Strasbourg, en l'occurrence
Oui, c'était à Strasbourg. Oui.
Eh bien, on vous écoute sur scène. Nous expliquez tout ça.
Imaginez-vous en train de survoler la place de la cathédrale un samedi après-midi de solde. Vous y apercevrez des centaines de personnes, toutes différentes, se déplacer en même temps dans tout un tas de directions. Une véritable frénésie. Eh bien, figurez-vous qu'une cellule, c'est pareil. Il y a plusieurs millions de molécules différentes qui se déplacent en même temps dans des directions variées. Maintenant, si on retourne à la cathédrale et que je vous demande de trouver rapidement mon tonton Gérard qui se trouve là, ça risque de vous prendre beaucoup de temps. Tellement que vous risqueriez de ne pas le trouver. Par contre, si j'ai pris la précaution d'installer un gyrophare sur la tête de Gérard, vous allez pouvoir le repérer très rapidement et même le suivre au cours du temps. Vous pourrez voir où il va, quand et comment.
Voilà, Gérard, c'est la molécule d'ARN, en fait.
C'est ça. C'est exactement
et
ça.
Et le gyrophare, c'est la fluorescence.
C'est ça.
Bon, ben, ça va, j'ai tout compris à votre thèse.
Parfait.
Alors, il faut expliquer aux auditeurs qui n'ont pas le sujet, évidemment, en tête. C'est ça, en fait, pour vous, c'est de tracer l'ARN.
C'est ça. En fait, j'essaye de développer des molécules d'ARN qui vont permettre d'émettre une fluorescence. Comme je le dis dans le texte, c'est avoir une sorte de gyrophare pour repérer une molécule dans une cellule, parce que il y a des millions de molécules en même temps, et certaines d'entre elles sont très peu représentées, donc il faut pouvoir les voir pour comprendre comment elles fonctionnent, où elles se situent, si on stresse la cellule, où est-ce qu'elles vont, est-ce qu'elles diminuent, augmentent, etc.
Mais comment on arrive à mettre un gyrophare sur une molécule aussi petite?
Eh ben, on travaille avec des molécules aussi petites, justement. Ouais. Je travaille avec des ARN qui sont très petits. Et donc des aptamères fluorogènes.
Des aptamères.
Des aptamères, exactement. C'est pas un grand mot, promis. Et ces aptamères, je fais en sorte qu'ils soient capables de reconnaître une petite molécule et d'en activer la fluorescence. Mmh. Et de l'utiliser comme un tag d'ARN dans les cellules.
Et alors là, il y a déjà des applications possibles à cette recherche?
Alors, la première, bien entendu, c'est d'avoir des outils d'imagerie qui soient performants, qui permettraient de répondre à plein de questions, que ce soit chez les mammifères ou même chez les bactéries, parce qu'il y a beaucoup de régulations chez les bactéries qui sont médiées par des ARN, notamment pour tout ce qui est résistance aux antibiotiques, et c'est important de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Ouais.
Donc là, il faut continuer les recherches pour vraiment aboutir à cette application. Hein.
Donc moi, c'est vrai que je fais plus de l'appliquer, je crée les outils qui vont permettre à d'autres d'aller trouver les réponses à leurs questions.
Oui. Et donc, Farah Boueda, vous serez sur la scène de Grenoble pour défendre votre thèse. Oui. J'ai cru comprendre que vous aviez impliqué votre grand-mère, c'est ça, pour tester cette
Exactement.
Thèse.
C'était mon témoin. Si c'est elle comprenait, c'est que c'était bon.
Bon, ben, c'est chouette. Elle a tout compris aussi.
Elle a compris.
Et ben, c'est parfait. Donc, vous aurez également ce travail à faire auprès du public le 13 juin. Christophe O'Haraud, donc vous êtes le deuxième candidat aujourd'hui avec lequel on fait connaissance. Et vous êtes en deuxième année de prépa en physique technologique et vous êtes entré à l'ENS de Cachan. Alors, qu'est-ce que vous recherchez, vous, de votre côté, Christophe?
Alors, moi, je m'intéresse aux sciences de l'ingénieur.
Ouais.
Et donc, plus précisément, je suis dans le domaine de l'interaction fluide-structure. Donc, on cherche à comprendre le couplage entre une structure et un liquide.
Ouais.
Donc, l'application que l'on vit, ce sont les réservoirs. Et donc, il y en a un peu partout, dans le domaine aéronautique, spatial, génie civil. Et nous, on regarde surtout ce qui se passe dans le domaine de l'aérospatial.
Ouais.
Parce qu'en fait, une fusée, c'est 90% de sa masse, c'est du kérosène. Enfin, c'est du carburant, des ergols liquides, on appelle ça. Donc, si on comprend comment fonctionne les vibrations d'un réservoir, on peut comprendre comment fonctionnent les vibrations d'une
fusée. Absolument. C'est pour ça qu'il y avait une photo de Thomas Pesquet aussi à l'entrée de votre présentation.
Alors tout à fait. Envie que vous ayez
On a vu la vidéo. Alors on va écouter un extrait justement de cette prestation. C'était pour les demi-finales et on va même vous entendre rapper, Christophe O'Haraud.
On m'a dit, Chris, tu rêves de matrice? Non, je code les matrices. Véritable passion émancipatrice. Quand je parle, vibration. Je pose mes équations. Je cherche quoi? Je cherche la réponse aux sources d'excitation. Le carburant d'une cuve courbe et sollicitation. J'ai le cerveau qui carbure quand on me parle de pulsation. Ouais, peut-être qu'avec un rap, je casse les codes. Dites-vous que je passerai ma vie à créer des lignes de code. On envoie déjà des fusées dans l'espace. Je ne suis pas le premier à faire ces calculs. Mais à l'heure actuelle, estimer les vibrations, ça prend des heures, des jours, voire des semaines. Et c'est là que ma thèse rentre en jeu. Peut-être que l'une de mes contributions permettrait de calculer en quelques minutes les vibrations.
Voilà, il a rappé l'occasion donc de cette thèse en 180 secondes, Christophe Oharo, et il le fera aussi, j'imagine, à Grenoble.
Tout à fait.
Ah, vous allez garder ça pour le public. David Val, comment vous jugez ce petit rap? Ça vous a plu?
Oui, beaucoup, mais j'aimerais savoir si on peut regarder ces conférences en ligne.
Ouais. Ah oui, elles sont accessibles sur YouTube.
Sur YouTube, on tape conférence.
MT180.fr. Hein, et vous avez toutes les vidéos des 16 finalistes maintenant. On doit même avoir celles des demi-finales, hein, probablement, qui seront disponibles. Alors, Christophe, donc ces vibrations, c'est vraiment le cœur de votre travail. On parlait des fusées tout à l'heure, donc vous pouvez travailler sur les lanceurs spatiaux, par exemple.
Tout à fait, oui.
Mais pas seulement, il y a plein d'ouvertures possibles.
En fait, tous les systèmes qui nous entourent vibrent, les voitures, les avions, les fusées. Et donc, si on comprend un peu la physique qu'il y a derrière, on peut tout à fait travailler dans plein de domaines différents.
Ouais. Mais alors, le but, c'est d'agir sur la vibration, vraiment?
Alors, ça dépend. Il y a certains domaines pour lesquels les vibrations sont des problèmes, donc on va chercher à les amortir.
Ouais.
Donc si je suis dans un avion qui bouge trop, j'ai pas trop confiance.
C'est très désagréable.
Par contre, si on veut récupérer de l'énergie, par exemple, on veut que ça vibre. Ouais. Donc, si on veut récupérer de l'énergie d'un écoulement ou ce genre de choses, donc
dans ça quel dépend cas, de l'application. Donnez-nous un exemple précis pour qu'on comprenne bien la volonté de récupérer l'énergie de la vibration. Alors, dans quelle situation ça peut être le cas?
Dans quelle situation alors, c'est pareil. Moi, je suis plutôt dans le côté amortissement.
Ouais.
Dans quelle situation? C'est si on a dans un cours d'eau, par exemple, on peut essayer de récupérer l'énergie du cours d'eau.
Ouais.
Donc, d'un côté un peu écologique, par exemple.
Ah ben parfait. Donc, vous allez faire vibrer le public. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein.
Alors, j'espère aussi.
C'est votre mission. Et puis, vous savez que si vous arrivez premier, eh bien, vous irez au Sénégal, Dakar, au Grand Théâtre National de Dakar, pour la finale internationale. Donc, il y a ça aussi à la clé. Et en attendant, on invite le public donc à aller vous encourager avec les autres candidats de MT 180 à Grenoble, à la Maison de la Culture. Et on s'y retrouvera puisque j'aurai le plaisir d'animer la soirée et de vous y retrouver. Donc, répétez bien en attendant.
Merci.
Vous restez avec nous, évidemment. Dans un instant, on va parler du Festival des déchets de Brest. You had your soul with you. I was in no mood. Drift away and I could forget.
Get up close again.
You Had Your Soul With You, c'était The National.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Voilà, le club de la tête au carré qu'on écoute même jusqu'au Japon, Farah Boueda.
Oui, oui, hein, oui.
Il paraît qu'il y a des auditeurs japonais qui écoutent en ce moment en direct.
Qui vous écoute, ouais, qui a mis le réveil pour se lever l'écouter.
Eh bien, on le salue, cet auditeur nippon, alors. David Val, vous êtes auteur, essayiste, interprète, commissaire du Festival des Déchets, auteur associé à Océanopolis. Ça, c'est assez original, on va en parler. Et donc, la métropole de Brest qui lance la semaine prochaine son premier Festival des Déchets. Alors, c'est vrai que quand on dit Festival des Déchets, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Quoi, hein. Et ben pourtant c'est passionnant et c'est ce qu'on va voir parce que c'est vraiment une espèce d'énergie, hein, qui va proposer à tous ces habitants du Finistère de venir pour parler de notre rapport au détritus, à l'environnement, via des spectacles, vous le disiez tout à l'heure, des conférences, des expos, des programmes pédagogiques. Donc c'est l'idée de s'interroger tous ensemble, hein, sur cette question cruciale, hein.
Oui, c'est l'idée de s'interroger tous ensemble et de le faire aussi par des biais extrêmement transversaux. Le théâtre, la danse, le ramassage, des tables rondes avec des scientifiques, des journées professionnelles. Ce Festival des Déchets, il est aussi remarquable parce que c'est le résultat d'une collaboration inédite entre la métropole de Brest, vous l'avez dit, le Quartz, scène nationale de Brest, on va y revenir parce que c'est, il y a toute une histoire entre, bien sûr, le théâtre et la gestion durable des déchets, en tout cas avec le Quartz, c'est Océanopolis qui est le centre de culture technique et scientifique de l'océan.
Et donc vous êtes auteur associé à
Alors depuis un mois, je suis auteur associé.
Ça veut dire quoi concrètement?
Et ben en fait, ça aussi, c'est quelque chose d'assez innovant. Bon, moi, j'ai toujours été très soutenu par le Quartz, la scène nationale de Brest. Mmh. On a déjà travaillé avec Océanopolis, puisque mon travail d'écriture, je suis tout le temps à la recherche de centres de ressources et de scientifiques que je vais interroger.
Oui, puis la mer, c'est un sujet central quand même dans votre travail.
Dans le travail. Et donc ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Et là, on a décidé d'approfondir cette relation et c'est vrai que c'est assez étonnant, j'en suis très honoré. C'est la première fois qu'un auteur de théâtre, un essayiste, va être associé à un centre de culture scientifique et technique.
Ouais. Alors vous êtes aussi à l'origine d'un spectacle qui s'appelle Le Sale Discours et qui tourne justement autour de cette question là des déchets.
Alors c'est un peu là que tout a commencé. Effectivement, Le Sale Discours, c'est un spectacle qui est né de l'envie d'interroger de manière assez ludique le propre, le sale, de montrer le relativisme de ces notions et d'essayer de comprendre de quel était ce que nous renvoyait en ce moment cette empreinte, la pollution, cette empreinte anthropique de l'homme très forte. Est-ce que finalement, puisqu'on dit que la poubelle c'est toujours un peu le miroir de l'homme, à notre époque où les poubelles sont particulièrement obèses et prégnantes, qu'est-ce que ça dit de nous? Donc c'est une réflexion assez ludique, poétique sur l'homme et sa peur de la mort, son instinct de survie.
Ah oui, on arrive à faire quelque chose de ludique et de poétique sur ce thème-là. Ouais, bravo.
Ouais, de ludique et de poétique, ce qui n'enlève en aucun cas la gravité des choses. Ah oui. Et puis, il y a un deuxième spectacle aussi, me semble, on en parlera, Histoire de fouille, qui est à destination des enfants. Mmh. Et là, qui vraiment raconte une histoire assez curieuse du plastique pour sensibiliser les enfants à cet environnement.
Alors, certainement, les Brestois vous ont vu sur cette affiche, hein, avec votre petit cochon en laisse, hein, puisque c'est lui qui illustre justement ce rendez-vous du Festival des Déchets. Comment il s'appelle ce petit cochon?
On l'avait appelé Dirty.
Voilà, mais il était juste là pour la photo.
Ce qui n'était pas très gentil parce qu'il était en vérité très propre.
Oui, absolument. Je sais même que vous le brossiez régulièrement pour le rendre propre. Alors, on a en ligne avec nous Roselyne Philippe. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir sur votre antenne.
Eh bien, on est ravis. Vous êtes vice-présidente de Brest Métropole en charge de la gestion durable des déchets. Ben, il y a du boulot là-dessus, hein, effectivement, en ce moment. Et on vous attend. Tout le monde a beaucoup d'attentes par rapport à cette question. Pourquoi vous avez souhaité vous embarquer autour de ce projet, de créer un festival, donc?
c'est une histoire, ce que disait David, c'est ça. C'est que l'histoire des déchets, elle peut aussi être couplée à l'artistique. Et de fait, à la métropole, on avait déjà cette pratique de montrer aux enfants, par le biais du ludique et de l'artistique, comment ne pas gaspiller, comment faire son tri. Mmh. Et puis, on a travaillé aussi avec des artistes plasticiens qui utilisaient du réemploi pour créer des œuvres. De fait, naturellement, l'idée a cheminé. Et puis un jour, en discutant avec le directeur de notre scène nationale du Quartz, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant. Je lui ai dit, tiens, tu t'aimerais pas faire quelque chose qui nous amènerait avec des choses encore plus visibles et qui embarqueraient tout le monde. Et puis voilà, on est parti dans cette aventure. Puis David est arrivé avec le sale discours. Et puis voilà, on est parti tous ensemble pour vous proposer la semaine prochaine ce festival.
Oui. Alors, c'est évidemment un sujet absolument crucial en ce moment, la question des déchets. Et l'idée quand même autour de l'art, des rencontres, des conférences, c'est de faire de la pédagogie, j'imagine, pour vous, avec tous les habitants de Brest et de la région.
C'est ça. Exactement, c'est-à-dire que c'est ouvert au plus grand nombre, vraiment. C'est vraiment un temps fort qui nous permet de s'adresser à tout public, tous les habitants. Et pour ce faire, on avait lancé un appel à projet auprès des habitants. On a 23 projets d'habitants qui vont être présentés mercredi soir, mais tout au long de la semaine, une expo de photos va montrer tous les projets qui ont été réalisés sur le territoire depuis 3-4 mois, là, en lien direct avec le festival, mais ce n'est qu'un début et ce n'est qu'un... Voilà, c'est déjà... permettre à la population de s'exprimer, de dire on est capable de faire des choses, on est capable de se mettre en collectif et de créer.
Donc vous faites remonter les projets, les initiatives des habitants, c'est ça ?
C'est ça. C'est mercredi soir, ils vont être présents au Quartz. Alors bien sûr, toute la semaine, ils sont présents, mais il y aura un temps très fort pour eux, pour ces 23 projets, pour qu'on puisse avoir vraiment un focus sur ce qu'ils ont réalisé autour du déchet, autour des luttes contre le gaspillage. Voilà, c'est très varié, des écoles, des EHPAD, foyers pour personnes adultes handicapées, maisons pour tous, voilà, tous y ont contribué. Il y a à minima un projet par quartier et par commune de la métropole.
David Val, ce qui est vraiment frappant, c'est que toutes ces questions, évidemment, on se rend compte à quel point elles sont au cœur de notre réflexion à tous, quelle que soit d'ailleurs la génération. Des plus jeunes aux plus âgés, on est tous préoccupés par ces thèmes-là.
C'est d'ailleurs ce qui a poussé Mathieu Banvillet à demander à des artistes, effectivement, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont programmés, il y a des spectacles de danse, il y a le Vegetable Orchestra qui vient faire de la musique avec des légumes qu'il récupère au marché, on a Maria
Clara
Villa-Lobos, des Autrichiens, qui vont faire le marché le matin et ils transforment les légumes qu'ils ont achetés en instruments de musique.
Ah bon?
Il y a un spectacle de danse, Alex au pays des poubelles, de Maria Clara Villa-Lobos, qui va essayer de s'adresser là aussi aux enfants et de leur montrer l'impact du déchet sur l'environnement. Et c'est une initiation au recyclage aussi. On a le collectif Osso, qui sont les artistes associés du Quartz, qui vont faire une visite assez loufoque et déguidée d'Océanopolis. Et donc, il y a bien sûr cet aspect de pédagogie, mais il y a surtout aussi cette volonté de montrer que ces questions-là sont des questions qui peuvent inspirer et qui sont inspirantes pour les institutions, pour les scientifiques, pour les artistes et pour la population. C'est le sujet politique par excellence. Et cette semaine, nous allons la vivre tous ensemble, au théâtre, à Océanopolis, dans les rues, il y a des campagnes de ramassage de plastique, des campagnes de ramassage de mégots. Et c'est pour montrer qu'en fait, ce thème-là, d'abord, c'est pas un thème qui est uniquement réservé à des pouvoirs publics. Chaque citoyen doit être concerné. Et c'est un thème fécond.
Nida Lissa, quand on est ornithologue comme vous, j'imagine que cette question-là, elle est aussi importante du point de vue du scientifique et qui s'intéresse aux oiseaux, parce qu'on le voit sans arrêt, les animaux, la biodiversité animale souffre énormément de ce problème-là.
Oui, tout à fait. Pour rebondir un petit peu sur la thématique, et vu qu'on parle de Brest et de la Bretagne, déchets Bretagne, moi ça me fait penser aux déchets marins, en fait, qui est une des principales causes de mortalité et de disparition des espèces marines qui sont particulièrement menacées.
Et des oiseaux aussi, d'ailleurs, j'imagine.
Oui, tout à fait, oui, c'est ce dont je parlais, mammifères marins, mais également oiseaux qui souffrent beaucoup des déchets.
Qu'est-ce qu'on trouve comme espèce d'oiseau typiquement brestoise, tiens, pour nos amis qui nous écoutent là-bas dans le Finistère, à Ouessant, par exemple, pour ceux qui ont la chance d'aller à Ouessant.
Je vais élargir un petit peu, mais c'est vrai qu'en Bretagne, c'est surtout la région des oiseaux marins, donc avec des espèces endémiques qu'on va retrouver que là-bas, à l'échelle de la métropole, notamment les macareux moines sur la réserve des Sept Îles, dans les Côtes d'Armor. Et malheureusement, plus que quelques coupes, 3 ou 4 à peine sur Ouessant. Ouessant est surtout réputé pour les migrateurs, en fait. Ouais. C'est quasiment le seul endroit de France où l'on peut observer des espèces américaines, voire sibériennes.
Ouais. Roselyne Philippe, alors vous qui êtes justement en charge de cette question des déchets pour la métropole de Brest, la façon dont une commune ou une métropole peut travailler là sur ce thème-là, est-ce que ça a beaucoup changé ces dernières années? Parce qu'on voit vraiment quelque chose qui bouge là depuis presque quelques mois d'ailleurs dans la société dans son entier. Mais vous, au niveau de la métropole, comment vous avez perçu les choses?
Oui, effectivement, ça bouge beaucoup. Bon, on est bien dans un sujet actuel, hein. Bien sûr que le réchauffement climatique, les questions environnementales, voilà, tout un chacun peut se sentir concerné. Mais effectivement, on a amené un discours et une parole sur la place publique. On ne parlait pas des déchets avant. Mmh. Et ce que raconte David dans le sale discours, c'est bien ça. C'est aussi traiter du sale, du propre. Mais comment chacun, aujourd'hui, au quotidien, gère cette question-là? Bien sûr qu'avant, c'était, j'ai pas envie de dire tabou, mais presque, voilà, on cachait sa poubelle, on cachait ses déchets. Aujourd'hui, il faut en parler, il faut montrer, il faut dire comment on consomme, il faut se réinterroger sur ses façons de consommer au quotidien, de se sentir vraiment concerné. Et bien sûr que nous, en tant que collectivité, dans ces propos-là, on amène, on insuffle ça, on montre aux gens, il n'est pas question de la culpabilité, par contre, il est question de prévention. C'est-à-dire, on travaille avec la population, vous accompagne sur vos gestes au quotidien, comment vous concevez, vous, aujourd'hui, de remplir votre poubelle, qu'est-ce qui vous amène à faire du tri, à composter. Voilà, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et c'est de cela qu'il s'agit, et c'est de cela que chacun doit avoir conscience.
Alors,
et bien
quand...
sûr que... Pardon.
Oui, oui, et quand on est en charge d'une politique comme ça, environnementale, hein, sur cette question des déchets, quels sont finalement les grands espoirs qui se profilent, ou en tout cas les actions particulièrement efficaces que vous voyez vous se dessiner à l'avenir?
Alors, les actions particulièrement efficaces, c'est bien dans la prévention, c'est-à-dire être présent sur le terrain à tout moment de la vie des personnes, des habitants. Nous, on intervient beaucoup, alors voilà, avec un événement très particulier qui est celui-là. On montre aussi aux gens, on est une ville de littoral, donc on montre aux gens aussi à quel point le déchet peut être nocif pour le littoral, pour la côte, pour l'océan. Donc, on a une prévention très forte. On va avoir un fil rouge qui va montrer aux habitants que chaque geste peut contribuer à une amélioration. De fait, on a vraiment un volet prévention très fort. Après, c'est diminuer le poids de sa poubelle. Ça, c'est très important. Améliorer le tri. Mettre le verre dans le conteneur à verre. Enfin, ça paraît basique, ça paraît enfoncer des portes ouvertes. Mais non, c'est encore et toujours redire les messages de manière différente. Et c'est pour ça que ce festival existe aussi. C'est amener le propos sous diverses formes, montrer aux gens que, voilà, trier, c'est ouvert à tous, c'est pour tout le monde et tout le monde doit se sentir concerné. Donc c'est vraiment ça. Vraiment dans la prévention et dans le message.
Et pour vous, David Val, qui est auteur, homme de scène, interprète, c'est de mettre tout ça en récit aussi, hein, pour nous raconter des histoires.
Oui, hein. Puis d'ouvrir des espaces de dialogue et montrer que ce sont des sujets. Mon but n'est pas forcément de vulgariser une science ou de faire de la prévention au sens strict, mais de montrer que ces sujets-là vont bien au-delà, nous amènent à des questionnements qui vont bien au-delà que voilà, que c'est important, ça concerne notre humanité, notre façon de voir les choses. Et notre rapport à l'écosystème et à l'environnement.
Farah Boueda, Christophe Ouarou, est-ce que ces questions environnementales, aujourd'hui, vous les sentez aussi au niveau de vos universités ou de vos labos? Est-ce que c'est des choses dont on parle, Farah?
Oui, c'est des choses dont on parle. La biologie s'intéresse, enfin, l'éco-conversion, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. Il faut s'y mettre dans nos laboratoires. On trie, par exemple, tous les déchets plastiques. On essaye de faire, parce qu'on consomme beaucoup aussi de plastique dans les labos, on essaye de faire aussi une petite pierre à l'édifice.
L'éco-conversion, vous appelez ça comme ça?
Oui, essayer de trouver, par le biais des micro-organismes, des moyens de répondre à des questions environnementales actuelles.
Les notamment. Bactéries, hein, c'est une bonne piste aussi. Hein.
Exactement, elles sont capables de faire beaucoup, beaucoup de choses. Ouais.
Ouais. Christophe Ouarou?
Alors nous, il y a des systèmes mis en place pour récupérer le papier, parce que bon, dans les labos, il y a beaucoup de papiers qui peuvent apparaître, mais je pense qu'on peut encore faire mieux.
Ouais. On peut toujours faire mieux.
Certainement. Allez, donc ce festival des déchets, c'est du 3 au 8 juin prochain à Brest, à spectacle, conférence, expo, forum et atelier. Et bien sûr, on peut avoir toutes les infos en allant sur le site internet qui est d'ailleurs, David Val, je le cherche.
Il faut aller sur le site du Quartz, Scène Nationale de Brest, et le programme est téléchargeable.
Merci beaucoup à vous, et merci Roselyne Philippe d'être passée par le club de la Tête au Carré.
Je vous en prie, il y a une page Facebook également sur l'événement.
Merci beaucoup, à bientôt.
Je vous en prie, bonne journée, au revoir.
Allez, dans un instant, on parle oiseaux avec Nida Lissa.
Oh mon amour, baiser.
Baiser d'amour, baiser tendre, baiser fou.
Oh mon amour, baiser.
suce ses pouces.
Et puis baiser bouche.
Baiser doigt, suce ses pouces. Puis baiser peau douce.
Oh mon amour, baiser.
Baiser d'amour, baiser tendre, baiser fou.
Oh mon amour, baiser.
Baiser mouillé, baiser chaud, gros bisous.
Baiser cou.
Baiser gorge.
Baiser sein.
Baiser ventre.
Baiser rein.
Baiser hanche.
Baiser cuisse.
Baiser tout.
Oh mon amour, baiser.
Baiser d'amour, baiser tendre, baiser fou.
Oh mon amour, baiser.
Baiser mouillé, baiser chaud.
Vous avez reconnu leur voix, Étienne Dao et Jane Birkin avec Mon Amour Baiser.
Le club sur France Inter.
Nidal Issa, vous êtes le dernier invité de ce club aujourd'hui. Vous êtes ornithologue, chef de projet écologue au Odyssée, hein, c'est ce nom du bureau d'études et de conseil en environnement. Et vous venez nous présenter donc cet ouvrage, Observer les oiseaux en France, que vous avez coécrit avec Jean-Yves Barniago et Sébastien Dalloyo chez Biotope. Ça vient juste de paraître. Et là, vous avez fait appel à des ornithologues locaux sur tout le terrain, justement, c'est ça, pour écrire ce guide. Comment vous êtes parti ?
Oui, on a fait appel à une quarantaine de collaborateurs qui sont des ornithologues soit bénévoles mais très impliqués dans les associations de protection de la nature, ou alors des techniciens, des conservateurs de réserves naturelles également, des guides nature qui nous ont aidés à co-construire ce guide avec leurs meilleurs sites, leurs meilleurs coins dans toutes les zones les plus reculées de la France.
Alors c'est ça, c'est vraiment la vertu de ce guide, c'est de découvrir les hotspots de l'ornithologie en France, et c'est sidérant parce qu'il y en a énormément en réalité. Hein.
Voilà, et encore, là c'est qu'une sélection d'à peu près 300 sites.
Ouais.
Bon, vous avez des grands sites comme la Camargue, la baie de l'Aiguillon, ou alors le bassin d'Arcachon, mais vous avez également plein de petits sites qui réservent de belles surprises. Et l'objectif, c'était d'apporter cette diversité de sites et puis de zones à découvrir, aussi bien pour les touristes et les touristes étrangers que nos concitoyens.
Si Farah veut aller observer les oiseaux entre deux présences au labo, il y a toute la page justement sur la région Grand Est. Hein.
Oui, tout à fait.
On peut aller voir exactement ce qui se passe chez vous en Alsace en particulier. Comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser à cette question, à vous passionner pour les oiseaux, Nidal Issa ?
Moi, je suis ornithologue depuis à peu près 25 ans, en tant qu'ornithologue amateur et puis professionnel depuis le milieu des années 2000. Et en 2015, on a produit avec la Ligue pour la protection des oiseaux un atlas des oiseaux de France.
Ouais.
Et on s'est dit que c'est bien de produire de la connaissance, comme ça un atlas qui va surtout servir aux scientifiques, mais que pourquoi pas s'en servir pour faire découvrir et redécouvrir la France au reste de la population en sortant des sentiers battus. Parce que la nature permet de sortir des grands cercles et voies touristiques.
Ouais, mais alors justement, ces lieux d'ornithologie qui permettent vraiment d'observer les oiseaux dans les meilleures conditions possibles, c'est des sites auxquels on accède facilement ?
Oui, bah vous avez différents types de sites. Ça peut être des sites urbains, périurbains. Des fois, on serait étonné de la richesse ou la diversité d'espèces qu'on peut observer, même dans Paris,
hein,
ou en périphérie. Et voilà, véritablement, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment une invitation au voyage.
Oui. Alors justement, des ornithologues amateurs, il y en a beaucoup en France. Hein. C'est un sujet qui intéresse.
De plus en plus. Moi, quand j'ai commencé dans les années 90, c'est vrai que c'était un petit cercle d'initiés.
Ouais.
C'était très spécialisé. Et on voit véritablement une démocratisation de la découverte et de l'observation. Et les sciences participatives y ont beaucoup contribué, justement.
On a l'image de l'ornithologue qui est toujours là avec son appareil photo. C'est ça. Hein, c'est ça à peu près, Farah. Et effectivement, il faut observer et en même temps être un témoin de ce qu'on voit. Donc de pouvoir photographier ces animaux qui ne sont pas faciles. D'ailleurs, c'est compliqué de photographier un oiseau. Hein.
Oui, oui. Malheureusement, la chasse y contribue dans notre pays. Quand on voit certains pays qui ont tout misé sur le tourisme nature, là, les conditions d'observation sont beaucoup plus simples.
Ouais. On va écouter le reportage qui avait été réalisé en 2012 autour d'une initiative de sciences participatives. C'était avec Espace Science. Et le comptage des oiseaux des jardins, c'est Yann Février qu'on va entendre dans ce sujet. Il est chargé d'études ornithologiques dans les Côtes d'Armor, justement.
C'est un projet de ce qu'on appelle les sciences participatives, justement, où on fait participer le grand public à des projets comme ça, qui sont à la fois des projets scientifiques et puis de sensibilisation aussi du grand public à la biodiversité. Donc nous, notre opération s'intitule tout simplement « Suivi des oiseaux du jardin ». Donc comme son nom l'indique, on demande aux gens, en fait, une fois par an, de compter les oiseaux de leur jardin pendant une heure. Donc à eux de choisir l'heure, à choisir le jour, le samedi ou le dimanche. Mais voilà, on demande quand même un maximum de gens, tout public, aussi bien des ornithos confirmés que des gens qui ne connaissent pas du tout les oiseaux. On leur demande de compter le maximum de chaque espèce qu'ils seront capables d'identifier.
Voilà, Nidal Issa. Et c'est vrai que des projets, là c'était en 2012, hein, mais il y en a toujours en réalité. On fait de plus en plus appel aux amateurs en particulier, les ornithologues, pour ces projets de science.
Oui, tout à fait. Et on voit que la science participative, c'est des choses qui marchent beaucoup. C'est pas simplement chez les oiseaux, mais également le comptage des papillons.
Oui, Qu'est-ce qu'on cherche à savoir quand on fait appel justement aux citoyens autour des oiseaux? C'est de les compter pour pouvoir savoir si certaines espèces souffrent plus que d'autres?
Oui, puis du coup, l'appel à bénévoles permet d'avoir des projets beaucoup plus ambitieux que lorsqu'on est dans un projet juste de recherche et on peut mobiliser que quelques personnes. L'appel bénévole est fondamental dans la connaissance naturaliste en général. Oui.
David Val, vous aviez une question pour Nidal Issa.
Je voulais savoir si la France était un pays où il fait bon vivre pour les oiseaux.
Ah oui, très bon vivre. Alors, il y a une explication à cela, c'est qu'on est à la confluence déjà de différents climats, hein, méditerranéens, continentaux et atlantiques. C'est-à-dire que vous allez aussi bien observer des espèces typiques de Méditerranée que des espèces boréales qu'on retrouve ensuite qu'en Scandinavie. Et vous avez une énorme diversité de paysages. Hein. On a aussi bien du littoral, de la montagne. Mmh. Et puis aussi, il ne faut pas oublier la Corse, qui a quelques espèces endémiques, dont la Citelle Corse, qui est une espèce mondialement menacée.
Oui. Ou le venturon, moi, j'ai vu aussi.
Oui, le venturon corse.
C'est un autre oiseau. Ça ressemble à quoi ces deux oiseaux, alors, parce que je ne les connais pas?
Alors la Citelle, c'est une petite espèce forestière qui souvent se balade la tête en bas.
Ah bon?
Et qui... Voilà, qui se reproduit dans les forêts de pins lariciaux dans la montagne corse.
Bon. Et Farah, est-ce que vous avez trouvé la page de l'Alsace dans guide? Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans votre région?
Eh bien, plusieurs espèces nicheuses, dont les bons Blongios, Biorio et Rond Pourpré.
Bon, vous les connaissiez ou pas?
Pas du tout.
Ben voilà. Et dans quel coin de l'Alsace alors?
Elle est là de Mulhouse à Strasbourg.
Bon, vous voyez, vous avez de quoi faire pendant le week-end.
Ah oui, bah oui.
Et vous savez que le Blongios, c'est sans doute l'espèce la plus patrimoniale et plus remarquable de Paris et de l'Île-de-France.
Ah,
en termes d'espèces remarquables, patrimoniales et très menacées. Oui, on compte à peine 1000 couples en France.
Ah oui, c'est pas
beaucoup. Donc quelques dizaines en Île-de-France.
Ouais. Alors justement, à Paris, parce qu'il y a aussi l'occasion, même en se baladant dans les grandes villes, hein, d'aller observer les oiseaux. Qu'est-ce qu'on trouve, par exemple? Il y a des espèces endémiques à Paris ou pas?
Alors, pas véritablement endémiques. Il faut savoir, pour donner quelques chiffres, que...
C'est Christophe qui va regarder Paris pour essayer de nous trouver une ou deux espèces.
On a 400 espèces à peu près vues tous les ans en France, dont 320 nicheuses.
Mm-hmm.
Et sur celles-ci... Pour Paris, on compte 60 espèces nicheuses, donc on peut faire le calcul, ça fait une espèce sur 5 qui se reproduit en France. On peut l'avoir à Paris, donc c'est pas mal du tout.
Il fait bon vivre à Paris aussi,
voilà,
on pourrait dire les choses comme ça. Bon.
Et presque 170 espèces ont déjà été observées en Île-de-France sur un total de 400-500, c'est... c'est également non négligeable.
Bon, Christophe, vous êtes tombé sur la plage de Paris ou
je suis tombé
parisien
sur Paris-Saclay.
Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le campus?
Si vous cherchez des... Oula. Anatidés, Limicoles et Hérons.
Ouais. Ah, il y a des Hérons.
Il y a des Blongios aussi et de Butor.
Bon. Ben voilà, c'est bien ça. Entre deux cours, on peut également, à Saclay, aller apercevoir quelques oiseaux. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Nidal Issa. C'est un guide merci qu'on à conseille à tous nos amis qui s'intéressent aux oiseaux. Ça s'appelle Observer les oiseaux en France, tout simplement. Et c'est Biotope qui vient de publier votre ouvrage avec vos camarades qui l'ont écrit en votre compagnie. Merci beaucoup à tous. Bonne chance, nos amis doctorants.
Merci.
MT180.fr si vous souhaitez avoir toutes les infos. Passez un très bon week-end. Merci à Rémi Sistiaga qui était aujourd'hui à la technique.